Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Nous y voilà donc au moment où je suis avec Greg et avec Fifi ou Sophie. Et vous êtes Dubamix.
Exactement, on est Dubamix.
Comment, présente-toi Greg.
Eh bien, que dire que j'ai créé le projet Dubamix il y a quelques années, en 2003-2004, donc ça commence à remonter, ça va bientôt faire 20 piges, que je fais du saxophone et que je m'occupe de tout ce qui est production et composition sur l'ordinateur. Voilà.
Et distribution, et booking, et
ouais, et une partie des visuels. Les graphismes en tant que tels, c'est Alexandre Chenet, et après, moi, les visuels pour les concerts, ce genre de trucs. Oui, j'occupe de ouais, tout l'aspect production, édition, machin, tout ça aussi.
100% indé.
100% indé, ouais.
On y revient après. Comment tu te présentes, Sophie ?
Alors moi, Sophie, je me présente tout d'abord avec Greg dans un cadre militant qui m'a fait me greffer au projet Dubamix sur l'album Pour qui sonne le dub, avec l'envie de faire un album autour des questions antifascistes. Et du coup, moi, pas musicienne, j'apporte plutôt des samples et des idées musicales en venant plus d'une scène rock, punk, un peu de LKJ, Peter Tosh plutôt du punk rock quand même. Et de la musique un peu plus, classique.
Mais alors, comment tu le rencontres pour aller se greffer ?
À la CNT, sur une lutte autour de la petite enfance et après sur d'autres luttes à la CNT.
Alors, on va aborder par étapes parce que c'est un très gros projet. Greg, Dubamix, juste, tu parlais de ce début là dans les années 2000. Là, tu remixais des hommes politiques, des discours, des machins avec du dub, ce qui était unique en France.
Ouais,
qu'est-ce que tu nous racontes de cette période là?
Bah, il y avait l'idée, si on remet un petit peu dans le contexte, Internet, on était au début, hein, quand même. YouTube, je pense que ça n'existait pas encore. Les réseaux sociaux, c'est sûr que ça n'existait pas. Donc c'était l'idée de se faire un peu l'écho d'une vision et d'une critique des médias et d'une critique du système politique, en prenant des extraits de discours d'hommes politiques et de les confronter à une certaine réalité. Par exemple, quand Balkany dit qu'il n'y a pas de pauvres en France, et de confronter avec les chiffres de la pauvreté en augmentation, ce genre de choses. Donc ça, c'était les débuts, c'était vraiment l'idée de puiser dans l'actualité pour porter un discours politique et accompagner des manifs. Il y avait un morceau sur le CPE qui a été créé pour être diffusé dans les manifs CPE. DHG, c'était pareil par rapport aux suppressions de postes dans l'éducation nationale. CCSA par rapport au projet de loi CCDA, etc. C'était vraiment à chaque fois des réponses à un thème d'actualité pour les passer soit à la radio, sur Radio Libertaire, soit dans la rue.
Voilà, donc ça a toujours été... toi, tu produisais de la musique dans le cadre, finalement, de ton action militante.
Oui, c'était vraiment ça. Et j'imaginais pas en faire autre chose. Enfin, au début, j'imaginais même pas en faire un album. Et j'imaginais encore moins en faire des concerts. Et en fait, les concerts, c'est venu parce que y a des gens... qui me contactaient parce que j'avais fait un site internet pour mettre tous les morceaux en téléchargement et tout. Puis des gens commençaient à dire attends, nous on fait une lutte, on organise un concert de soutien, est-ce que tu voudrais pas venir jouer? Et moi au début je faisais pas du tout de concert. Donc après est venue l'idée de se dire comment faire pour faire un live qui puisse être interactif et tout ça. Et donc se sont greffées plusieurs personnes sur le projet. Bonge qui est parti depuis mais qui faisait tout l'aspect mixage. Et Jérémy qui est encore là sur les dates, notamment les dates parisiennes en ce moment, qui fait la vidéo en live. Voilà, donc ça c'est en 2011 les premiers lives.
Voilà, et c'est là qu'on te rencontre, nous, je crois, quelques années après, tu viens au Psycho.
Ouais, exactement.
Et donc c'est parti, tu passes aussi à quelque chose de peut-être un peu plus personnel, tu sors des samples de, on va se retourner vers peut-être Sophie, mais d'arrêter un petit peu justement de prendre ces discours politiques bout de médias pour que à un moment donné il y ait des compos plus précises et puis tous les chanteurs qui débarquent quoi.
Alors effectivement au départ le projet de Greg c'était un peu de reprendre des voix et des individus. Et ensuite, il y a eu une espèce d'évolution en se disant, voilà, c'est pas un individu le problème, mais toute une société, un contexte général qu'il faut combattre. Et donc, ne plus partir forcément de samples de voix comme Balkany, ce qu'il disait tout à l'heure, mais de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de dire, toujours en ayant en tête ce côté festif qui est hyper important. Je pense, voilà, on est tous des militants et des militantes à notre façon, et qu'à un moment on a besoin d'entendre cette musique pour nous faire avancer. Et du coup, moi j'arrive avec ma toute petite touche en ayant peut-être ce que je disais tout à l'heure, plus une approche un petit peu soit rock, soit folk, tu vois, avec Joan Baez, avec Leonard Cohen. En se disant, voilà...
Les violons, tout ça.
Ouais, les violons, Reggiani. Et du coup, avec une approche un peu plus globale, mais en conservant l'esprit, évidemment, de Greg et de sa musique combative et militante.
Ouais, voilà, disons que l'idée, pour rendre le truc un peu concret, c'est que, par exemple, Sophie va avoir une idée de se dire, tiens, bah, ça serait pas mal de le reprendre, par exemple, Partizan, ou ça serait pas mal de faire un morceau sur Oradour sur Glane, parce qu'elle venait d'entendre à la radio un extrait où on entend le juge qui parle au procès, ou le procureur qui parle au procès des assassins d'Oradour, et du coup, voilà, à partir de là, elle fait, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire musicalement. Et du coup, moi je me mets à la compo purement, quoi, on va dire, sur l'ordinateur et tout ça. Et puis après, bah, c'est tout un travail d'échange, d'écoute, de réécoute pour élaborer des morceaux, puis élaborer les albums. Chaque album est vraiment pensé à partir de Pour qui sonne le dub. Ils sont vraiment pensés comme des entités, quoi. Enfin, ils ont une thématique, ils ont une sonorité bien particulière. Voilà, Pour qui sonne le dub, avec ce parallèle. Et c'est cette vigilance antifasciste, on va dire. Puis Camarade, après, bah voilà, comme son nom l'indique, sur la solidarité, l'internationalisme, et en effet, l'appel à beaucoup de d'invités, de camarades qui sont avec nous ce soir.
Et puis, t'en as un autre après encore.
Alors voilà, alors ouais, il y en a eu.
Du Capital, il y a tout ça.
Ouais, exactement, c'est vrai que bon, là, je les égrène pas tous, mais là, c'était vraiment sur les gros albums, on va dire. Et en effet, après Camarade, qui est sorti en 2020, donc l'année d'après, c'était les 150 ans de la Commune de Paris. Donc, oui. Sophie avait l'idée notamment de reprendre La Semaine Sanglante, et aussi de reprendre Versaillais. Moi, c'était une chanson que je connaissais pas du tout, qui a été écrite par Jean-Édouard Barbe, en fait, pour les 100 ans de la Commune de Paris, donc il y a 50 ans. Et ça a été une chouette rencontre, enfin, sur Internet avec Jean-Édouard, voilà, avec qui on a sympathisé, qui était ravi qu'on reprenne le morceau 50 ans après, voilà, qu'on en ait fait, une autre version. Et Versaillais. Donc ça, c'était 2021, donc l'album sur la Commune. Et puis 2022, cette EP La Haine du Capital, où il y a deux titres. Il y a un morceau qui prolonge un petit peu, qui est un peu en écho à Communard, c'est Fairy Tale, parce qu'il y a des extraits de textes de Louise Michel, donc qui viennent un peu rappeler l'album sur la Commune. Et c'est un remix qu'on a fait d'un morceau des Dub Shepherds, qu'on apprécie tout particulièrement. Et puis notre version du Bella Ciao avec les Dub Yosia Collective de Bosnie. Voilà.
Du coup, t'aimes le dub maintenant, Sophie ?
Oui. Mais oui. Je suis obligée, en fait.
Mais t'aimes celui-là de dub ou tu les aimes tous ?
Alors, honnêtement, moi, j'ai découvert une scène que je connaissais à un tout petit niveau. Et ouais, franchement, et surtout les rencontres, avec un milieu qui était pas forcément le mien à la base. Et je pense que la musique est fédératrice, et que n'importe où, il y a du bon son, des camarades, il y a tout pour faire la fête. Et que voilà, je me fais plaisir dans cette scène-là maintenant.
Et Greg, pourquoi le dub ? Pourquoi t'as choisi ça ? T'aurais pu faire du punk, t'aurais pu faire plein d'autres choses pour avoir ce même discours politique.
En fait, moi, j'étais dans un groupe de reggae. Moi, c'est la première musique qui m'a fait vraiment vibrer comme ça, quoi. Et encore aujourd'hui, en fait, moi, j'écoute très peu de dub. J'écoute principalement du reggae. Voilà, c'est la musique que j'écoute le plus. Après, j'écoute plein d'autres choses, hein, et du dub, j'en écoute aussi, mais principalement le reggae. J'étais dans un, groupe de reggae, je suis toujours dedans, il s'appelle Lion Stepper, on est en train de préparer un nouvel album, mais il se trouve qu'entre les répètes, bah, j'étais un peu frustré de pas pouvoir jouer et tout ça, et donc je me disais, bah tiens, je vais essayer de faire du reggae moi sur mon ordinateur, sauf que faire du reggae qui sonne vraiment roots, moi c'était ce que j'écoutais quoi, les Dennis Brown, Jacob Miller, etc. Bah, avant d'être capable d'arriver à faire ce genre de choses sur un ordinateur, faut être sacrément balèze. Et du coup c'était un peu par facilité, le dub sur le côté c'est des sonorités qu'on peut faire, voilà, j'avais téléchargé Fruity Loops version 3.5 en 2003 et je me suis dit, ah bah tiens, le dub, ce côté électronique, bon, j'étais aussi c'était une époque où j'étais aussi allé quelquefois déjà en free party et tout, donc j'avais aussi une partie de mes émotions musicales étaient bien drainées par la techno aussi, tout ce qui était électro-techno. Et donc du coup, le côté électronique, bah voilà, ça marchait bien. Et puis, il y avait le côté direct où je me suis dit, ah bah tiens, c'est rigolo, à partir du moment où je mets un morceau au bon tempo et à la bonne tonalité, bah je peux le sampler et ça rend bien sur du dub, ce qui serait peut-être plus compliqué, enfin j'imagine ça beaucoup plus difficilement avec du reggae roots quoi. Donc du coup c'est venu un peu comme ça, presque par défaut, par exemple quand j'ai commencé à faire du dub, j'avais jamais vu de sound system dub, j'avais vu des sound system en free mais c'était techno, j'avais pas vu de sound system dub, les premiers vraiment
la culture quoi,
pas du tout, et en fait cette culture dub et les premiers sound system que j'ai vu en action, dub, en fait c'est quand j'ai joué avec Dubamix, mais sinon j'en avais pas vu avant, et c'est rigolo quoi, parce que c'est en jouant que du coup j'ai aussi découvert tout un univers que je connaissais pas forcément avant, découvert musicalement tout plein de choses hyper intéressantes aussi quoi.
Tu t'es rendu compte que t'avais des belles basses?
Ouais. Bah justement, je me suis rendu compte que je faisais du dub particulier quoi. Parce que évidemment, le fait que je fasse du dub sans avoir au début cette culture dub, bah forcément mon dub il était pas du tout comme le dub qui se faisait à l'époque quoi.
Mais en fait, c'est quoi le dub? C'est
une très bonne question, c'est une technique quoi. C'est un état d'esprit, et c'est ça, c'est pour moi. Qui est très do it yourself, ou même tu vois, moi il y a une formule de Stupéflip que j'adore, prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble, bah voilà tu vois, enfin c'est ça aussi quoi, que ça soit au niveau do it yourself de construction, tu vois, des sonos, où ça peut être ça, et puis bah nous pour construire les musiques où on prend plein de petits trucs à droite à gauche, et puis voilà, on essaie de faire des choses avec ça quoi.
Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Sophie tout à l'heure, est-ce que vous pourriez dire quelque chose de ce public dub, des gens qui viennent pour ce son-là, cette puissance de son-là, et éventuellement, à chaque fois en tout cas que c'est l'occasion de vous voir, pour quand même aussi quelque chose de militant? On a partagé ça tout à l'heure avec Daman, qui était frustré d'un reggae qui est parfois un peu trop mou ou trop religieux, ouais. Et que c'était quand même au départ une musique de lutte, et le dub l'est redevenu, l'est devenu aussi.
Alors pour le coup, moi qui étais plus ce que je disais tout à l'heure dans le rock punk, avec un message hyper politique, c'est vrai qu'en découvrant le dub et la scène et tous les endroits où j'ai bougé avec Dubamix, je me suis rendu compte qu'il y avait un public hyper militant, qui avait été aussi bercé, je pense, par leurs parents, par Joan Baez, par Leonard Cohen. Je vois la réaction, là, quand Greg, il a joué tout à l'heure ces morceaux-là, bah, les mômes, quoi, voilà, on sait, on a tous, voilà. Il y a une espèce d'osmose et aussi de concentration, de lutte. Et vraiment, je ressens ce même esprit subversif, à la fois d'une volonté d'avoir une autre société qui est envisageable à notre échelle, et du coup finalement ce que je disais tout à l'heure, c'est pas loin du punk et du rock et tout, même sans aller là-dedans, tous les groupes alternatifs qui sont nés dans les années 80, 90, etc. machin, où tous les soirs, moi j'ai grandi sur Paris, t'avais un concert dans un squat partout, qui était très abordable aussi financièrement, ce qui est aussi en général là où joue Greg, en fait tu peux accéder de manière free, où tu participes à ta mesure à un concert, et sur Paris tous les soirs dans les squats t'avais un concert de ragamuffin, de rock alternatif.
Il n'y a plus?
Non, Paris est, ça y est, Paris se meurt aujourd'hui. Ça te donnait un bandit, une bandite.
Ah, prochain titre.
Voilà. Mais non, non, il n'y a plus malheureusement à Paris. Maintenant, c'est des trucs, c'est cher. C'est dans le... Voilà, il y a plus ce côté, genre, tu peux retrouver des copains, boire des bières dans la rue et puis rentrer pas trop cher dans un concert. Et puis, en général, les gens dans l'entrée, même s'il y a un prix, voilà, tu mets 3 euros. Pardon.
Sauf le 7 mai où on jouera à prix libre, voilà, à la Flèche d'Or. Voilà, qui a été reprise justement, voilà, petit espoir, la Flèche d'Or qui était une chouette salle mais qui était gérée de façon hyper commerciale et tout. Ça vient d'être repris par une asso super bien qui autogère le truc et qui tient à faire des événements de soutien, donc qui nous file la salle pour faire un concert de soutien à la lutte People and Baby qu'on soutient, voilà, depuis ses débuts. Et donc voilà, il y a des fois quelques espaces comme ça, comme à la CNT aussi, au CICP. Il y a quelques espaces sur Paris, mais c'est compliqué à Paris parce que, bah voilà, qui dit salle dit location, dit enfin voilà, et les prix des locs, enfin forcément ça va contraindre. Voilà, les squats sont moins nombreux sur Paris même. Après, en proche banlieue, il se passe plein de choses, et je pense notamment à Vitry où il y a le Crapaud ou le Kilowatt, qui sont des espaces relativement récents, qui ont quelques années et qui donnent vachement espoir sur des choses possibles, peut-être en proche banlieue, mais hyper chouette d'un point de vue politique et culturel, quoi.
J'ai demandé à tous les autres en quoi ils étaient rouges et noirs.
Sophie, elle est rouge, moi je suis noir.
Alors pour le coup, on est surtout dans une même classe sociale. Même qu'on soit fils de bourgeois, à partir du moment où tu te rends compte que l'oppression est dans un camp, tu te retrouves dans l'autre camp si tu as un minimum d'aimance sur la vie des gens. Donc du coup, moi je parle, on est rouge et noir. Moi, voilà, j'ai une formation peut-être un peu plus bolchevique, entre guillemets, que Greg, mais voilà, je suis hyper surtout anti-autoritaire. Voilà, l'autoritarisme, que ça soit au boulot, dans ta vie, au niveau du patriarcat, au niveau des conditions au quotidien, nos conditions de travail, etc. Donc anti-autoritaire, émancipatrice. Donc ça, on le retrouve aussi bien dans le communisme, dans le bon sens du terme, et dans les milieux libertaires. Après, voilà, peut-être la différence, moi, que je verrais entre les camarades rouges et noirs, où certains ont besoin d'un parti pour s'organiser et après s'émanciper, et que d'autres iront plus dans des mouvements type CNT, où à la base, c'est le syndicat, les mandats, etc. Mais je pense qu'au final, on est tellement peu nombreux qu'on ne va pas trop chipoter sur le rouge et noir, on va surtout s'unir avec le jaune aussi, de temps en temps, ceux qui sont bien, les restants bien des gilets jaunes, parce que pour le coup, on les a fait, voilà. Mais voilà, mais juste, on fait partie d'une classe sociale, on est antifasciste, antiraciste, on lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre le patronat, et c'est ça qui nous regroupe. Et dans une semaine, on va s'en prendre plein la gueule, que ça soit le libéralisme ou Le Pen, et que du coup, voilà, on va pas trop chipoter. On s'engueulera quand on aura fait la révolution.
Ouais, je partage tout à fait ces... Ouais, je sais pas ce que je peux rajouter après une
citation. Parle-nous du noir.
Non, mais moi c'est plus moi je me définis souvent comme anarchiste, drapeau noir, mais je me définis plus souvent comme communiste libertaire, comme justement ce mélange entre les deux, c'est-à-dire cette espèce d'équilibre, je trouve, entre la part importante de liberté individuelle, d'émancipation et de centrage autour de l'individu qui doit être vraiment pris en compte, et le collectif. Voilà, c'est ce qui peut me déranger des fois chez certains libertaires, c'est des fois une négation du collectif parce que l'individu doit toujours primer, chez les rouges purs, ce qui va me gêner, c'est justement le rejet de l'individu. Et donc cet équilibre entre les deux. Et je pense qu'en fait, on est beaucoup à se retrouver là-dedans, dans cette espèce d'équilibre, cette balance entre le collectif, l'individuel. Comment essayer d'avancer là-dedans. Voilà ma définition du rouge et noir.
DubMX, vous en vivez ?
Absolument pas. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants.
Et absolument pas. Moi, je suis prof.
De quoi ?
De musique. Comme c'est étonnant.
Non,
mais c'est un... Enfin, voilà, parce que tu poses la question, c'est un... c'est un choix. Enfin, au début, de toute façon, on se posait même pas la question. On faisait à peine de concerts et tout. Là, je pense qu'on pourrait, si on voulait vraiment vivre, je pense que ça serait un chemin qu'on pourrait prendre. Mais, c'est vraiment pas ce que je veux pour pas mal de raisons. La première, c'est que je kiffe mon boulot. Je kiffe enseigner, transmettre la musique par l'enseignement, moi c'est mon dada. Et puis par ailleurs, le fait que ça soit pas notre métier, bah, ça nous permet de faire des tournées où on joue pour des concerts de soutien, de sortir des albums uniquement quand on en a envie, de pas avoir la pression de ah bah tiens putain ça fait tant de temps qu'on n'a pas sorti un album, faudrait en ressortir un, etc. On est totalement libre de créer ce qu'on veut, quand on veut, avec le rythme qu'on veut. Ça nous convient tout à fait, quoi.
Et après, si je peux me permettre, je rajouterais qu'on est tous les deux des militants syndicalistes dans nos travaux respectifs et qu'effectivement, la musique est hyper importante dans les luttes. Je reprends souvent la phrase d'Emma Goldman qui dit « Je ferai pas votre révolution si je ne peux pas danser ». Bon, elle est un peu raccourcie, la phrase. Mais voilà, donc la musique est importante dans les lieux de vie comme ça, etc. parce que c'est un souffle. Parce que même quand t'es en manif, quand il y a de la musique et que tu vas t'affronter ou pas, machin, c'est un truc fédérateur et qui fait du bien. Mais c'est aussi important, je pense, de continuer à travailler, de pouvoir être syndicaliste et de pouvoir se dire que cette société émancipatrice dont on parle dans les musiques, on la veut aussi sur nos lieux de travail. Et que moi, je travaille avec les enfants, et pour moi, les enfants, voilà, c'est hyper important qu'il y ait un projet pédagogique et des valeurs pour qu'ils puissent être des jeunes filles et des jeunes gens, qui soient émancipés, et que c'est important. Lui, il est prof avec un public un peu plus âgé, mais que du coup aussi on peut apporter notre pierre, que ça soit dans notre métier, mais aussi avec nos collègues, se dire voilà, on peut travailler différemment, on peut penser la vie différemment, et si on se déconnecte complètement du monde du travail, c'est plus compliqué, quoi.
En fait, du coup, on pourrait sous-entendre que c'est ce qui nourrit votre musique, finalement, d'être aussi complètement pris dans des luttes qui sont liées, par exemple, au monde du travail ou autre.
Ouais, probablement, peut-être un peu comme le fait de défendre un syndicalisme. Enfin voilà, comme Sophie qui est à la CNT, un syndicalisme où il n'y a pas de permanent et où bah du coup c'est des gens qui sont vraiment ancrés dans le truc. Bah nous c'est pareil, quoi. Enfin, c'est-à-dire que la question du rapport au salariat, la question du rapport à l'émancipation, bah en fait elle est quotidienne, quoi. Et puis c'est le fait d'être aussi au quotidien, de pas être dans une bulle, parce que mine de rien, que ça soit la bulle militante ou la bulle musicale et tout, ouais voilà, ou dub et tout, voilà, comme toute bulle, forcément ça peut être, il peut y avoir un peu un danger à l'autarcie et à pas se rendre compte vraiment des choses, et là c'est hyper intéressant,
satisfait, quoi.
Ouais voilà. Et après, et je me permets de rebondir sur la question que tu posais sur la question du public, et où je trouve que c'est assez chouette, parce que d'une, entre les soirs, et puis de deux, même des fois dans le même soir, il peut y avoir des publics totalement différents, des gens qui viennent justement plus pour l'aspect dub, des gens qui viennent plus pour l'aspect militant.
C'est le cas ce soir, par exemple, ouais.
Probablement. Alors j'ai peu discuté parce que juste après le concert, on est venu faire une interview.
Ouais, excuse-moi.
mais voilà.
En fait, c'est effectivement le cas ce soir, par exemple. Il y avait vraiment des gens qui sont là, qui ont compris que vous repreniez des chants de lutte et que ça allait leur parler. D'autres qui sont liés au mouvement Gilets jaunes et anti-répression de la Drôme. Et puis ceux qui vous aiment parce que t'es dans le dub, quoi.
Mais j'ai envie de te dire l'organisation même de cette soirée, quoi. D'un côté collectif anti-répression, de l'autre côté Psycho by Dub, voilà, quoi. Je veux dire, c'est ça, quoi.
Mais peut-être qu'on porte des fois des gilets jaunes aussi. Hein.
Ouais, mais bien sûr.
C'est pas incompatible.
Les éléments de com.
On a un site internet qui est bien fourni, et d'ailleurs c'est Bertrand qui le fait, et bénévolement, un grand merci à Bertrand. Donc il y a plein de choses sur le site. On peut retrouver tous nos albums en téléchargement gratuit, on peut retrouver les livrets avec les références des samples, avec les paroles, les traductions. Il y a même on a fait des playlists avec tous les samples qu'on utilise et tout. On invite les gens à aller découvrir ça. Et puis on peut nous contacter directement dessus. Après, on est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça.
Et tous ces artistes-là, c'est toi qui vas les chercher ou maintenant ils disent « parce que je peux pas jouer avec vous ?»
C'est moi qui suis allé les chercher.
Comment ils le prennent, enfin, je veux dire,
Ça c'est à eux qu'il faudrait le demander, comment ils le prennent, je sais pas. En tout cas, c'est des gens voilà qu'on a rencontrés soit au détour de concerts de soutien, soit dans des concerts tout court, et où le courant est passé aussi bien humainement que politiquement que artistiquement, ce qui n'était pas forcément évident. Et en fait, ça s'est super bien goupillé. Et là, ça fait quelques jours qu'on est en tournée là avec tous ces camarades, et c'est un putain de plaisir, quoi.
Pour terminer, qu'est-ce que vous voulez transmettre ?
Toujours moi l'esprit festif et de réflexion à un niveau plus ou moins en fonction de prendre ce dont on a besoin quand on écoute une musique, quoi. Les musiques, elles font souvent partie d'une tranche de vie, et voilà, et je pense qu'actuellement le contexte politique est fatigant, épuisant, et que du coup on transmet un petit moment de vie pour ceux qui ont envie de l'entendre à ce moment-là. Après, voilà.
Ouais, puis une note d'espoir, et de se dire que voilà, il faut pas lâcher l'affaire, que des résistances il y en a, qu'elles existent. On essaye de donner la voix soit à des résistances actuelles, soit à des résistances passées, s'inspirer de ce qui s'est fait dans le passé, non pas pour le reproduire tel quel, mais il y a quand même eu pas mal de choses hyper intéressantes. Je pense qu'il faut s'en nourrir, et il va falloir se serrer les coudes sacrément dans les semaines et les mois et les années qui viennent.
On se quitte avec un morceau, lequel et pourquoi ?
Alors, moi là, tout de suite, vu qu'on parlait un peu de résonance avec les luttes passées, j'aurais pensé au petit tract, parce que pour le coup, on entend une résistante Aubrac, c'est ça ? Ouais, Lucie Aubrac, et on entend un chant yiddish, qui pour nous aussi est important, qui lutte contre le tsar, qui est anarchiste. Et là, j'ai une pensée à tous les...
Le chant est anarchiste.
Le chant est... Oui, non, oui, merci. Bon anarchiste Nikolai. Et que du coup, j'ai une grosse pensée aux camarades russes, et notamment des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Avant le confinement, on avait fait un rassemblement, on était une petite vingtaine avec la Fédération anarchiste devant l'ambassade de Russie, en soutien aux camarades jeunes, très jeunes, russes, qui se battent contre Poutine depuis des années et des années. Et que là, il y a la guerre en Ukraine, mais qu'on parle pas trop de tous ces jeunes gens qui sont emprisonnés depuis un bon moment, depuis 2-3 ans. Et que du coup, moi, les petits tracts, je pense que c'est, voilà, qu'à l'époque, on chantait contre le tsar. Maintenant, on peut chanter contre Poutine, et surtout soutenir tous les anarchistes, où qu'ils soient.
Merci, Greg.
Merci beaucoup à vous pour l'organisation de la soirée, pour l'interview, pour ce que vous faites avec la radio. Voilà, longue vie aux Radio Libre, longue vie à ce que vous faites. Franchement, merci beaucoup.
Merci, Sophie.
Vraiment, la radio, c'est ce que je disais tout à l'heure au camarade qui est en face de moi. C'est
camarade Laurent.
Laurent. Et que ça fait partie, voilà. Je prends mon café, la radio, et c'est la vie. Ça t'apprend plein de choses, la radio. C'est important.
Vous voulez quoi?
Me battre. Battre.
Comme ça que nous avons commencé.